Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrovert.
Notre invité de ce soir est une référence dans le milieu économique et académique. Stéphane Garelli était présent jeudi dernier à Delémont dans le cadre d'un 5 à 7 organisé par la Banque cantonale du Jura. Professeur en économie à l'Université de Lausanne et à l'IMD, ancien directeur du World Economic Forum et président du conseil d'administration du journal Le Temps, il est venu parler des perspectives économiques. Nous en avons profité pour le rencontrer afin d'aborder la situation actuelle, l'avenir, la digitalisation, l'intelligence artificielle ou encore les défis qui se présentent aux médias romans. Un entretien d'une vingtaine de minutes que vous pouvez écouter maintenant et retrouver ensuite sur notre site internet.
Bonsoir.
Vous apprêtez ici à donner une conférence devant de nombreux responsables de PME, notamment sur la situation et les perspectives économiques. Vous allez vous montrer rassurant ?
Oui, je crois. Pour la première fois en 10 ans, on a une reprise économique synchronisée un petit peu partout dans le monde, ce qui est une bonne nouvelle. Il y a très peu de pays qui ont encore des problèmes. Il y a peut-être le Venezuela en Amérique latine, mais en général, c'est bon. C'est bon en Europe aussi, particulièrement. Ce qui sont d'excellentes nouvelles pour la Suisse, parce que nous sommes un pays qui est très dépendant du reste du monde, très dépendant de ce qui se passe en Allemagne, bien sûr, mais aussi en France et spécialement ici. Et je crois que les perspectives sont bien meilleures qu'elles ne l'ont jamais été pour le moment. Donc, de ce côté-là, c'est des bonnes nouvelles.
Quels sont les indicateurs principaux qui montrent que la situation est au vert, que la reprise est bien présente ?
C'est une bonne question parce qu'il y a deux types d'économies. Dans l'économie dite matérielle, on a plein d'indicateurs économiques. On en a, vous savez, j'ai pendant des années publié un rapport sur la compétitivité mondiale. On utilisait plus de 120 indicateurs, c'est le PIB, la productivité, l'inflation, etc. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus dans une économie qui est immatérielle. C'est un petit peu, comme vous rappelez, Alice au Pays des Merveilles. À un moment donné, elle passe de l'autre côté du miroir. Et quand on passe de l'autre côté du miroir, dans cette économie immatérielle, on doit se poser la question avec quoi on peut l'analyser, avec quoi on peut la mesurer. Est-ce que c'est avec des likes sur Facebook ou est-ce que c'est avec autre chose? Et je crois que beaucoup de gens, beaucoup d'économistes aujourd'hui sont un peu perdus parce qu'ils ne savent pas très bien quel est l'impact de cette nouvelle économie, par exemple, sur la productivité.
On va y revenir à cette nouvelle économie tout à l'heure. Avant ça, peut-être un mot sur la région, l'arc jurassien qui a subi la crise de plein fouet. Des entreprises de montres, évidemment, mais aux sous-traitants, en passant par toute la machine-outil, se pose la question de la diversification dans une région comme la nôtre. Quels sont comment diversifier un tissu économique à l'échelle cantonale comme le nôtre, à votre avis ?
Alors d'abord, je dois dire que on est en Suisse en général une économie extraordinairement diversifiée. Si vous regardez un petit peu, quand je vais à l'étranger, on me dit « Ah oui, la Suisse, c'est du chocolat et des banques ». Mais je dis « Mais on fait aussi des montres, on fait aussi de la pharmacie, on fait aussi de l'alimentaire, on fait de la machine-outil, etc. » Effectivement, on est présent un petit peu partout. C'est pas tous les cantons qui font tout. Il y a une sorte de spécialisation. Vous en avez une. Je crois que le grand défi, c'est d'essayer peut-être de sortir un petit peu plus de la sous-traitance pour pas être totalement dépendant des autres. Mais je crois que jusqu'à maintenant, le Jura a eu des taux de croissance qui étaient supérieurs à la moyenne économique de la Suisse pendant longtemps. Et je pense que cette diversification doit être aussi au niveau des PME qui doivent être capables aussi de retrouver peut-être le sens de l'innovation par elles-mêmes et moins celui d'être dépendant en sous-traitance d'autres entreprises.
C'est de la responsabilité des PME. Les politiques peuvent jouer un rôle ?
Bien sûr, Keynes disait toujours « tous les problèmes sont économiques, toutes les solutions sont politiques ». Donc quelque part, le cadre institutionnel dans lequel on opère va dépendre des politiques. Le soutien que l'on pourra avoir, non seulement dans le domaine législatif, mais aussi dans celui des infrastructures, qui est très important pour le Jura, est aussi quelque chose qui va dépendre du politique. Donc ils ont à faire beaucoup et je pense que la relation entre le politique et l'économique est quelque chose qui est essentiel. Pendant trop longtemps, certains grands chefs d'entreprise et moins grands avaient un peu l'idée de dire « oui, on peut se passer du politique, nous sommes globaux, au fond, les politiciens ne nous aident pas ». C'est une grande erreur. On ne peut pas ignorer le politique et au contraire, les pays qui marchent bien sont des pays où il y a une bonne relation entre l'économique et le politique.
Aujourd'hui, quand vous croisez des entrepreneurs ou des patrons de PME, c'est quoi leur préoccupation principale ?
Je crois d'abord c'est la complexité des règles, des réglementations qui sont aujourd'hui celles que nous avons. Parfois, elles sont nécessaires parce que à travers la crise économique que nous avons eue ou la crise financière, il y a eu une demande de la population d'avoir plus de réglementation, plus de garde-fous pour éviter qu'une telle crise se reproduise. Et effectivement, cela veut dire que les grandes entreprises sont confrontées à beaucoup de réglementations. Elles ont un avantage, elles ont beaucoup de gens pour y faire face. Mais les PME qui doivent faire face, elles aussi, à beaucoup de règles et de plus en plus, n'ont pas les ressources humaines pour faire face à tout cela. Et elles consacrent de plus en plus de temps et de plus en plus d'énergie simplement à remplir du papier, alors qu'elles devraient avoir le temps de passer plus de temps avec leurs clients ou à faire de l'innovation.
Vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, à l'échelle plus large, vous êtes l'auteur de nombreux travaux sur la compétitivité des nations. Vous avez dirigé le World Competitiveness Yearbook, un rapport publié par l'IMD, qui propose un classement de la compétitivité de 46 nations. L'année passée, on retrouve la Suisse deuxième, derrière Hong Kong. Pourtant, toutes les entreprises qui exportent se plaignent de nombreuses choses, notamment du francfort. Malgré tout, selon ce classement, le pays reste extrêmement compétitif. Ça veut dire qu'on exagère un petit peu ce problème ?
Non, on l'exagère pas, mais il y a deux choses à dire. La première, c'est que la Suisse est positionnée dans des produits où le prix est un peu moins important que dans d'autres secteurs. Par exemple, prenez la montre, eh bien, y a une certaine flexibilité, même si l'industrie horlogère a souffert, hein, c'est clair. Elle a pu quand même avoir un peu plus de marge de manœuvre pour se réadapter face à ce qui se passait, peut-être parce que les gens qui sont très riches sont moins dépendants de la situation économique. Je crois aussi que les entreprises ont fait un énorme travail aussi pour réduire leurs coûts, réduire leurs prix. Elles l'ont fait d'ailleurs en coopération avec le monde du travail. Hein. Je veux dire, les gens ont fait des énormes efforts, parfois en réduisant le temps de travail, etc. Et c'est ce consensus social qui, quelque part, nous a sauvés en Suisse. Alors, la bonne nouvelle maintenant, c'est que le franc suisse par rapport à l'euro s'affaiblit. Et ça va être autant de bons points qui vont être engrangés maintenant pour les entreprises parce qu'elles ont réduit leur base de coûts pour faire face au franc fort. Et maintenant que le franc fort s'affaiblit, c'est autant d'oxygène qui vont rentrer dans les entreprises.
La crise pourra amener des opportunités.
Les crises amènent toujours des opportunités. Elles nous forcent à nous réinventer, à regarder les choses de manière très différente. Parfois, elles sont nécessaires. Si vous prenez, par exemple, quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est le monde du pétrole. On a vécu longtemps avec 100 dollars le baril. Maintenant, on a 55 dollars, 60 dollars le baril. Et puis, on se rend compte que les entreprises, elles ont fait des économies. Elles s'en sortent très bien. Si le prix du pétrole n'avait pas diminué, elles n'auraient pas fait cet effort.
Un autre point qui revient souvent quand on parle de compétitivité internationale par rapport à la Suisse, c'est le coût de la main-d'œuvre. Là aussi, la Suisse est un pays compétitif, mais quand on regarde dans certains pays d'Asie, quand on voit le coût de la main-d'œuvre, ça veut dire qu'il y a certains secteurs où la Suisse ne peut plus être compétitive à cause de ce coût de la main-d'œuvre.
Alors, le coût de la main-d'œuvre dépend d'un autre facteur qui est la valeur ajoutée, la productivité. Si vous êtes cher, mais qu'en contrepartie, vous donnez beaucoup de valeur, beaucoup d'intelligence, beaucoup de technologie, beaucoup d'ardeur au travail, en fin de compte, cela va bien. Vous savez, je crois que c'était Warren Buffett qui disait « Le prix, c'est ce qu'on paye, la valeur, c'est ce qu'on reçoit ». Et si vous avez quelqu'un qui est relativement cher, mais qui vous donne énormément de valeur dans l'entreprise, par son innovation, son enthousiasme, son travail, en fin de compte, c'est comme ça qu'on s'en sort en Suisse. Hein. Si vous avez beaucoup de pays, malheureusement, en développement, où le coût de la main-d'œuvre est très bas, mais où la productivité est très basse aussi. Donc, quelque part, ça nous oblige, par contre, ça c'est vrai, à nous concentrer dans des domaines où on a une réelle valeur ajoutée.
Et si on continue de se comparer à d'autres pays, il y a souvent l'exemple américain qui revient, où on regarde jalousement la Silicon Valley par rapport à l'innovation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le prochain géant de l'informatique d'être suisse ?
Alors ça, c'est une très bonne question, c'est le cœur du sujet. À mon avis, on fait en Suisse des efforts remarquables pour avoir des startups, pour avoir des gens qui créent leurs entreprises. Mais on est particulièrement mauvais pour le deuxième stade, c'est-à-dire qu'une fois que l'innovation est faite, que l'entreprise a une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'employés, en général, cet entrepreneur va vendre son entreprise. Au lieu de continuer à la créer, je peux me poser la question, où sont les Logitech, où sont les Kudelski de demain ? On n'en a pas. Vous prenez le SMI, les plus grandes entreprises cotées à la bourse suisse, et ce sont toutes des vieilles entreprises. On a cette incapacité notoire à créer des entreprises autour d'une innovation. Et ça, c'est un problème énorme que je comprends d'une certaine manière parce que les sociétés de la Silicon Valley que vous avez mentionnées ont énormément d'argent. Elles ont accumulé énormément d'argent et au fond, elles ont réalisé qu'elles font faire de la recherche par elles-mêmes, mais parfois, c'est tout aussi efficace de racheter une petite entreprise qui, quelque part, a émergé et puis est devenue un grand succès. Et en faisant cela, quelque part, je me demande parfois, mais c'est un peu provocant, est-ce qu'on n'est pas en train de financer la recherche des grandes entreprises comme Apple, Microsoft, etc., qui rachètent systématiquement nos jeunes pousses qui ont du succès ?
Est-ce qu'il y aurait un moyen politique ou autre d'inciter les entreprises innovantes à maintenir, à capitaliser, à tenter de grandir et de devenir leader?
Alors oui, d'abord, il faut améliorer la relation entre l'entrepreneur et le manager. Vous savez, souvent, je le comprends d'ailleurs, celui qui crée son entreprise travaille difficilement, il a des années de galère, et puis finalement, on lui propose beaucoup d'argent pour vendre son entreprise, il le fait. Et il a tendance à se dire, au fond, ce que j'aime, c'est créer des entreprises, c'est pas les gérer. Et en faisant cela, il vend son entreprise, il a des sous, et puis il recrée une deuxième entreprise. Mais l'entreprise est partie ailleurs. Et je crois que c'est important d'essayer de leur montrer, d'essayer d'avoir plus de managers qui sont prêts à entrer et à entrer dans ces jeunes pousses, à les aider. Et si je regarde tous ces grands succès de la Silicon Valley, que ce soit les Microsoft, que ce soit les Google, les Amazon, tout ça, Facebook bien sûr, ils ont tous à un certain moment donné engagé des managers professionnels parce qu'ils voulaient continuer à innover, les créateurs. Mais ils sentaient qu'ils n'avaient pas envie de s'occuper des problèmes de 1000 personnes, de 2000 personnes dans l'entreprise. Donc il faut rétablir ce lien avec les managers.
Vous enseignez à l'IMD, à l'Université de Lausanne, vous formez des managers. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne trouvent pas leur place dans ces entreprises?
Je crois d'abord parce qu'il y a tout bêtement le fait que les entrepreneurs, généralement, ont peur des managers. Ça a l'air d'être idiot, mais ils se disent, oui, c'est des gens qui, généralement, sont bardés de diplômes, ont travaillé dans des grandes entreprises, ont eu des gros salaires, etc. Et ils ont peur de les engager. Ils se disent, ils ne vont jamais être heureux. Moi, je suis une petite boîte, on travaille avec des ficelles. Plus tôt ou tard, ils vont être malheureux, je ne peux pas les payer. Alors, on essaie de leur donner ce qu'on appelle des stock options, hein. Pour leur permettre peut-être quand la société grandit et être mise en bourse de récupérer un peu d'argent. Mais je trouve que c'est compréhensible, mais ce n'est pas tout à fait juste. Très souvent, moi je vois des managers qui arrivaient à un certain stade de leur vie, ont fait un peu le tour de la vie dans les grandes entreprises, hein, ce qu'on appelle en anglais le « corporate life ». Et ils se disent, mais après tout, je ne m'amuse plus. J'ai envie de repartir dans quelque chose de nouveau, d'avoir une équipe où on se connaît, qui est moins un personnel qu'une grande compagnie, et de reconstruire quelque chose. Donc, je crois qu'il faut rétablir ce lien.
Si on reste sur l'innovation, elle ne concerne évidemment pas que les grosses entreprises de la Silicon Valley, elle concerne tout le monde. On parle beaucoup d'industrie 4.0 aujourd'hui, des nouvelles technologies qui demandent des investissements. Comment s'assurer que les petites entreprises, les PME arrivent à prendre ce train de l'industrie 4.0 aujourd'hui, selon vous?
Alors, il y a plusieurs initiatives à ce sujet. Il y en a une qui s'appelle d'ailleurs Digital Switzerland qui vient d'être faite, qui essaie de pousser la Suisse à être peut-être plus consciente, hein, de ce qui se passe dans ce domaine. Je crois aussi qu'il y a un réel problème de financement, parce que c'est vrai que la plupart des banques aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent pensent qu'elles peuvent faire beaucoup plus d'argent et de profit avec la gestion de fortune plutôt qu'en gérant la finance ou le financement d'une petite entreprise qui va avoir de la peine avant de faire un minimum de rentabilité et qui ne va pas être capable de rembourser tout de suite son emprunt. Et c'est là où, à mon avis, peut-être l'État a quelque chose d'important à faire, c'est-à-dire ce financement garanti. C'est là aussi où les banques cantonales ont un rôle essentiel, c'est de financer ces jeunes pousses, ces jeunes PME, etc. Je ne suis pas sûr que les très grandes banques vont le faire. Les très grandes banques ont acquis une telle taille aujourd'hui qu'elles ne vont financer que des très gros projets, probablement au niveau global, ou alors elles vont faire de la gestion de fortune.
On parle parfois de la fracture technologique entre les personnes de certain âge et les jeunes. Est-ce qu'on risque aujourd'hui une fracture technologique économique entre les grosses entreprises qui ont les moyens et les petites qui ne nous ont pas forcément?
Alors oui, tout à fait. Et on a cela et puis on l'a de l'autre côté avec le fait qu'une des manières pour ces grandes entreprises de se protéger de ces jeunes pousses qui sont souvent très innovatrices, hein, avec des jeunes qui sont assez formidables, c'est précisément de les racheter. C'est de leur donner... Vous connaissez peut-être Siri, vous le savez, l'application d'Apple. Ben, Siri, c'était inventé par un Norvégien. Et la vraie Siri s'appelait Siri Kalvek. C'était une présentatrice à la télévision norvégienne. Elle était très, disons, photogénique. Donc, il y a la moitié des Norvégiens sont tombés amoureux d'elle. Et puis, ce petit gars, il a fait sa compagnie, il l'a appelé Siri. Il s'est battu, il est arrivé. Et un jour, il reçoit un coup de téléphone de Steve Jobs qui lui dit « Je vous la rachète, l'entreprise, bien sûr, pour 200 millions de dollars. » Évidemment, il a vendu. Et maintenant, Siri, c'est Apple. Et c'est comme ça qu'ils se protègent un peu, ces grandes entreprises, en disant, voilà, là, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, je vais lui mettre tellement d'argent sur la table, pour moi, c'est rien, pour lui, c'est beaucoup, je rachète, et puis comme ça, je me protège de la concurrence.
Une autre tendance technologique lourde, c'est l'intelligence artificielle. On en parle d'ailleurs beaucoup ces derniers temps. La robotisation qui suivrait derrière. Tous les métiers peuvent être concernés à moyen terme. Est-ce que l'économiste que vous êtes pense qu'il y aura toujours du travail pour à peu près tout le monde ?
Alors, effectivement, l'intelligence artificielle va déplacer des jobs. Hein. Et elle va certainement avoir un énorme impact dans le domaine de la santé, dans la finance, dans beaucoup de domaines. Donc là, je crois qu'il faut être prêt. Je pense qu'une bonne économie est une économie qui fournit du travail, non seulement pour des gens qui ont des diplômes d'ingénieur ou qui ont une grande spécialisation dans l'informatique ou autre chose, mais du travail pour tout le monde. C'est l'école blanche, c'est l'école bleue, c'est les gens qui font du service, c'est les gens qui peuvent peut-être aider les personnes plus âgées à la maison, etc. Je crois que c'est une grande erreur de se concentrer que sur les technologies avancées. Il faut le faire, c'est important, il ne faut pas rater le virage, il ne faut pas rater la révolution. Mais franchement, dans toutes les bonnes économies du monde, il doit y avoir aussi une diversification dans l'emploi. Et on doit accepter que ce n'est pas tout le monde qui va devenir un docteur en physique ou en biologie. Et ça, c'est quelque chose où on doit l'accepter et on doit reconnaître que les gens qui n'ont pas fait des études universitaires sont probablement des gens qui sont tout aussi respectables que ceux qui en ont fait. Et la grande force de ce pays, la Suisse, ça a été pendant des années, et c'est toujours, à mon avis, notre système d'apprentissage qui permet aux gens d'arriver au sommet d'une entreprise sans avoir fait précisément des études.
Aujourd'hui, un enfant qui veut devenir mécanicien, comment lui assurer que son travail ne sera pas remplacé par une machine bientôt ? Ça semble difficile aujourd'hui d'imaginer des professions manuelles dans 15, 20 ans qui pourraient encore exister.
Je lui conseillerais de devenir mécanicien d'un robot. Hein, parce que tôt ou tard, ce brave robot, il aura des problèmes d'huile, il aura des problèmes de mécanique, etc. Il faudra bien que quelqu'un le répare. Alors, les gens vont dire, ils vont se réparer eux-mêmes, je ne suis pas sûr. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier, les robots, aujourd'hui, ils ont quand même une grande vulnérabilité. C'est que pour opérer, ils ont toujours besoin d'énergie. Donc, si vous voulez vous arrêter un robot, c'est très simple, vous le débranchez, vous enlevez la prise. Et tant qu'on a encore ce contrôle, notamment à travers l'énergie, le réparer, etc., je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apporter au monde des robots, de l'informatique. Ce n'est pas eux qui vont commencer à prendre le monde par eux-mêmes. Par contre, ce qui est vrai, et ça, ça avait été dit par un grand physicien comme Stephen Hawking, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le grand avantage de ce que nous appelons des robots, hein, qui peuvent être aussi un programme informatique, ce n'est pas uniquement un Android, c'est qu'ils peuvent se reprogrammer tous les jours eux-mêmes, très rapidement, et apprendre très rapidement. On est peut-être un peu plus lent à apprendre.
Pour conclure cet entretien, je vous propose, Stéphane Garry, de parler un petit peu de l'avenir des médias, parce que vous êtes le président du conseil d'administration du journal Le Temps, un mandat que vous allez d'ailleurs remettre le mois prochain. Le journal a connu des crises, mais dernièrement, il a été récompensé par le prestigieux prix international Online Journalism Award. L'avenir des médias, il est obligatoirement digital ?
Il est multiple. À mon avis, l'avenir, si je peux parler du temps, hein, c'est difficile de parler des autres, ça sera de plus en plus de numérique pendant la semaine et de plus en plus de papier durant le week-end. Je crois qu'il faut s'adapter à des temps de lecture qui sont différents. Durant la semaine, on est tous sous la pression des événements, on veut tous aller vite, on veut tous avoir aussi des informations immédiates. Et je crois que le numérique, c'est ce qui va nous le permettre de l'avoir avec les tablettes, avec le téléphone, etc. Par contre, pendant le week-end, on a probablement plus de temps, on a envie de retrouver la sensation du papier, de lire les choses plus tranquillement, plus en longueur, de découper certaines choses qui nous intéressent. Et je suis persuadé que durant le week-end, il y a encore la place pour le papier. L'histoire des médias, hein, sur le long terme, n'est pas qu'un média a tué l'autre, il s'est rajouté un autre. Vous êtes à la radio, la télévision n'a pas tué la radio. Internet n'a pas tué la télévision, etc. etc. Évidemment, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché, ça c'est vrai. Mais je crois qu'au fond, on donne aux consommateurs d'informations de plus en plus de choix. Et je crois que le vrai défi, c'est de permettre aux gens de prendre l'information comme ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent, mais de s'assurer que c'est une information de qualité.
Reste qu'il y a quand même plusieurs titres qui ont disparu dernièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop de titres de presse écrite en Suisse ?
Nous avons, en tout cas, si je peux parler de la Suisse romande que je connais mieux, on a probablement le plus grand nombre de titres par habitant. On est, comparez-nous par exemple à une région comme la région lyonnaise, hein, qui est la taille de la Suisse. Hein. Mais juste la Suisse romande, où on est 1,2 million de personnes, regardez le nombre incroyable de journaux, de magazines, de radios, etc., de télévision un peu moins, que l'on a. Et c'est vrai, il y a une consolidation qui va se faire. Je pense que cette consolidation va surtout toucher les titres un peu plus généralistes, un peu plus haut de gamme. Le régional, le purement régional, lui, continuera à avoir beaucoup de succès parce que même avec Internet, même avec les grands du monde numérique, les gens veulent savoir ce qui se passe de l'autre côté de la rue.
Il n'y a pas que la presse écrite qui est dans la tourmente, c'est aussi le cas de l'audiovisuel. Il y a notamment une initiative, Nobilag, qui sera votée en mars prochain, qui demande l'interdiction de tout subventionnement des médias audiovisuels par l'État. Quelle est votre position sur cette question ?
Alors, je suis clairement contre cette initiative. Je pense qu'on a besoin d'un système public parce qu'on a plusieurs langues dans ce pays. Je crois aussi qu'on oublie souvent que dans le système Bilag, il y a aussi une redistribution de l'argent des subventions aux radios privées, etc. À mon avis, il n'y en a pas assez. Ça, c'est un autre problème. Je crois qu'on a mis le doigt sur quelque chose de réel, qui est peut-être la toute-puissance du service public par rapport aux radios privées, etc. Et malheureusement, l'initiative est extrémiste. Elle veut simplement abolir cela. Et je crois que si on abolit cela, on va se retrouver dans un véritable désert dans l'audiovisuel. Et ça, on ne le veut pas. Mais peut-être que ça va être un électrochoc utile hein, pour la RTS qui va devoir se dire, bon sang, on a passé très près du boulet de canon. Peut-être qu'il faut qu'on le fasse. Et il y a plein d'initiatives nouvelles qui sont en train de naître, notamment vis-à-vis des jeunes. Parce que ce qui était surprenant, c'est qu'en général, il y a beaucoup, vous savez que c'est une initiative UDC, mais il y a aussi beaucoup de jeunes de différents partis qui sont tentés de voter oui. Parce qu'ils se disent, effectivement, nous, ce qu'on voit là, ça ne nous concerne pas, ça ne nous touche pas, on n'arrive pas à regarder ces trucs sur notre téléphone, etc. Donc je crois que ça va peut-être faire bouger les choses de ce côté-là, mais l'initiative en elle-même, elle est trop extrême.
Aujourd'hui, selon vous, avoir une diversité des médias dans l'audiovisuel sans subventionnement public, c'est impossible ?
Ça dépend si on veut une certaine qualité ou pas. Je crois que vous pouvez le faire si vous êtes que alors dans la course à l'audimat. Hein. Et dans ce cas-là, je crois que tôt ou tard, vous allez vous retrouver avec énormément de producteurs d'émissions qui seront bas de gamme. Parce que malheureusement, c'est ça qui marche. Regardez, prenez nos grands voisins en France. Hein, qu'est-ce qui fait que vous avez de la qualité un peu différente ? Arte, France Culture, France Inter, toutes ces choses-là, c'est quand même des radios d'État. Si vous regardez ce qui est purement privé, ça ne veut pas dire que tous sont mauvais, mais c'est quand même des gens qui doivent avoir de l'audimat. Et pour cela, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous achetez des séries télévisées aux États-Unis.
On arrive gentiment au terme de cet entretien avec vous, Stéphane Garelli. On rappelle que vous êtes notamment professeur à l'IMD à l'Université de Lausanne et que vous êtes dans la région sur une invitation de la Banque cantonale du Jura. On vous laisse aller donner votre conférence. Merci beaucoup. Très bonne soirée.
Merci beaucoup. C'est un plaisir.
Cet entretien avec Stéphane Garelli, vous pouvez le réécouter sur notre site internet. La semaine prochaine, Sortie de boîte revient, même heure, même endroit. Mais avant de vous laisser partir, vous avez rendez-vous avec la chronique horlogère de Marie-Lise Saillard. Très bonne soirée.
Pile à l'heure.
Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man.
Peu de montres sont jaunes, en revanche, elles sont nombreuses à avoir la même forme que Pac-Man, c'est-à-dire ronde. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à une montre devenue iconique, reconnaissable au premier coup d'œil à la forme de sa lunette, c'est-à-dire le tour de la boîte. Oh, you better stop. Cette forme, c'est la même que les panneaux stop, octogonale. Et puisqu'on est branché géométrie, ajoutons que cette lunette à 8 côtés est fixée par 8 vis hexagonales. Elles ont donc chacune 6 côtés.
Je suis perdu. Je suis perdu.
Bon, laissons tomber la géométrie pour parler de l'histoire. L'histoire de la Royal Oak commence en 1971. La légende dit que cette montre est née en une nuit.
Retiens la nuit.
Le directeur d'Audemars Piguet de l'époque, Georges Gollet, veut une montre sport de luxe pour le marché italien. La veille de l'ouverture de la foire horlogère de Bâle, il contacte Gérald Genta, créateur-designer indépendant qui travaille pour la marque depuis longtemps. Le patron passe donc commande pour le lendemain.
Bip, bip.
Autant vous dire que Gérald Genta ne dort pas beaucoup cette nuit-là, il ne dort même pas du tout.
Je passe encore une nuit blanche.
Mais le lendemain, il présente son dessin de montre octogonale qui, d'après certains, s'inspire des casques de scaphandre traditionnels. Audemars Piguet présente la première Royal Oak à Bâle l'année suivante.
Et le chêne, toi debout,
semblait trop au-dessus de tout.
Royal Oak, en français, c'est chaîne royale. Mais cette montre n'est pas en bois. C'est un matériau audacieux pour l'époque qui a été choisi pour une montre de luxe, l'acier, qui évoque davantage le monde de l'industrie. Une autre caractéristique qui n'est pas forcément de nature à attirer le client, c'est le prix. Lancement à 3650 francs, pour l'époque c'est très cher. C'est la montre en sport en acier la plus chère qu'on ait jamais créée à ce moment-là.
Money, money, money.
Ajoutons à cela que la Royal Oak est lancée quand les montres mécaniques passent de mode avec l'arrivée du quartz. A priori, on se dit que tout est réuni pour que ça fasse un flop. En tout cas, bien malin, celui qui pouvait, au début des années 70, deviner que ce modèle entrerait dans la légende. Aujourd'hui encore, c'est le modèle phare de la marque, décliné entre autres en titane ou en or, version femme, version homme, bracelet métal, céramique, caoutchouc ou cuir, mouvement quartz à remontage mécanique ou automatique. Il y en a pour tous les goûts. Certaines sources disent que la forme inédite de cette montre a plutôt été inspirée du hublot d'un bateau de la Royal Navy, le HMS Royal Oak, ce qui expliquerait le nom de la montre. Les 8 navires qui ont porté ce nom faisaient eux référence à un épisode de l'histoire britannique remontant au XVIIe siècle. Lors de la Troisième Guerre civile d'Angleterre en 1651, le roi Charles II a évité d'être capturé en se cachant dans un chêne.
Pile à l'heure.